Il est 19h, vous êtes sur Europe.
Un nouveau candidat dans la course au vaccin. Ils sont de plus en plus nombreux. La France peaufine sa politique vaccinale. Personnel de santé et personnes vulnérables seront prioritaires. 90 millions de doses précommandées.
Les distributeurs de boissons, alcoolisées ou non, souffrent énormément de la crise, pénalisés en particulier par la fermeture des bars et des restaurants. Certains annoncent même des suppressions de postes.
7 militaires jugés pour la noyade d'un élève officier lors d'un bizutage, une soirée d'intégration à l'école de Saint-Cyr-Couët-Quidon.
Didier François nous racontera l'histoire d'un espion dont la libération met un terme à une affaire qui a empoisonné les relations entre Tel Aviv et Washington.
Et puis le foot, demain soir en Ligue des Champions face à Leipzig. Le PSG pourra compter sur Mbappé et sur Neymar, mais Icardi est forfait et Verratti incertain.
Et puis la tendance météo avec Anissa, un temps de saison demain.
Parfait, un vrai temps de fin novembre avec des brouillards le matin, un ciel voilé l'après-midi et surtout des gelées matinales. Il va faire froid, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Quelle stratégie sanitaire pour la France dans les semaines à venir? On sera fixé demain à l'issue de la nouvelle intervention d'Emmanuel Macron. Cette fois-ci, pas question de parler de déconfinement, mais d'allègement des contraintes. Avec notamment, on le dit depuis plusieurs jours, la réouverture, sans doute dès le week-end prochain, des magasins. En revanche, toujours pas de date pour les bars et pour les restaurants.
Oui, Emmanuel Macron qui devrait surtout fixer un cap aux Français sur le long terme et leur dessiner un coin de ciel bleu, on l'espère, car on en a bien besoin.
Et dans cet horizon, il y a bien sûr la question des vaccins. La course de vitesse entre les laboratoires se poursuit. Nouvelle annonce aujourd'hui, cette fois c'est le britannique AstraZeneca associé à l'université d'Oxford qui annonce avoir développé un vaccin efficace à 70% en moyenne, voire à 90% dans certains cas, selon des résultats intermédiaires.
Oui, les premières doses pourraient arriver mi-décembre en Europe. Victor Dolande, on a vu la semaine dernière que les Allemands avaient déjà tout prévu. Est-ce que c'est le cas aussi chez nous en France?
Oui, le gouvernement semble vouloir agir vite pour éviter un nouveau couac après celui des masques en mars et des tests en septembre. La France a d'ores et déjà précommandé 90 millions de doses. Il faut d'abord que les autorités de santé délivrent des autorisations de commercialisation pour ces vaccins. Ce feu vert pourrait être donné avant la fin de l'année. Alors, quelles personnes recevront les injections en priorité? Sur ce sujet, il semble y avoir un consensus dans les pays développés. D'abord, les professionnels de santé qui sont en contact direct avec les malades et les personnes les plus à risque de faire une forme grave de la maladie. Ça représente déjà près de 30 millions de personnes en France. La Haute Autorité de Santé doit rendre dans quelques jours un avis définitif justement sur ce public prioritaire. Autre avis de la HAS attendu vers la mi-décembre, cette fois sur l'organisation logistique de la campagne de vaccination. Avec déjà une certitude, la France a appris de ses erreurs. Oubliez donc les vaccinodromes, ces immenses barnums qui ont fait un flop en 2009 lors de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1. Cette fois-ci, l'idée serait de se reposer davantage sur les médecins généralistes, les infirmiers et les pharmaciens.
Les précisions de Victor Dolande.
La pandémie qui fait vaciller un géant français, Danone, annonce jusqu'à 2000 suppressions de postes au niveau mondial, dont 4 à 500 en France.
Et oui, le groupe d'agroalimentaire explique qu'il souffre de la fermeture des bars et des restaurants auxquels il ne vend plus de bouteilles d'eau. Alors on imagine, Élise Dangean, que c'est tout le secteur de la boisson en général qui souffre.
Et oui, car ce sont deux destins liés, on le voit, à tous les niveaux. Chez le géant Danone, la fermeture des bars et restaurants a fait baisser les ventes d'eau en bouteilles de 30%. C'est énorme, mais ça reste compensé par les ventes à la grande distribution. Certaines entreprises sont malheureusement moins diversifiées. C'est le cas par exemple d'OBD Grand Paris, leader de la distribution de boissons en Île-de-France. En ce moment, l'entreprise ne réalise que 2% de son chiffre d'affaires habituel en livrant simplement les boulangeries, les EHPAD et les collectivités locale. Le chiffre fait sens quand on regarde ce qui s'est passé au premier confinement. Selon la Fédération nationale de la boisson, les grossistes avaient vu leur chiffre d'affaires fondre de plus de 90%. Et pour cause. Un exemple concret, une bière sur trois est vendue dans un bar ou un restaurant. Autant d'établissements qui pourraient ne jamais rouvrir, 30 à 40% d'entre eux, selon les fédérations professionnelles, ce qui provoquerait des réactions en chaîne et c'est ce que craignent les professionnels de la distribution de boissons.
Élise Dangean du service Éco d'Europe 1 et pour l'instant, donc pas d'annonce de réouverture des bars ou des restaurants, ça ne fait pas partie des projets dans l'immédiat.
On suivra bien entendu en direct demain soir ensemble la nouvelle intervention d'Emmanuel Macron à partir de 20h, édition spéciale, jusqu'à 21h. 21h.
Et cette fois, en tout cas, le confinement n'aura pas été bénéfique pour nos poumons.
Oui, contrairement au précédent, la pollution n'a pas diminué, c'est même le contraire. L'ONU constate même une augmentation record des concentrations de CO2, c'est le principal gaz à effet de serre.
Dans l'actualité également, l'affaire des écoutes, le procès dans lequel comparaît Nicolas Sarkozy, est suspendu jusqu'à jeudi pour des raisons de santé. L'un des trois prévenus, l'ancien magistrat Gilbert Azibert, ne s'est pas rendu à l'audience aujourd'hui. Il redoute d'attraper le Covid, une expertise sur son état de santé va être réalisée.
Lui se tient bien comme prévu à Rennes, le procès de sept militaires de Saint-Cyr poursuivis pour homicide involontaire.
Il y a 8 ans, lors d'une soirée d'intégration, le sous-lieutenant et élève officier Jalal Ami s'était noyé dans une eau à 9 degrés. L'épreuve consistait à traverser un étang à la nage, de nuit et avec l'équipement complet, rangers et casque compris, François Coulon.
Oui, à la barre, deux élèves officiers co-organisateurs de cet exercice de débarquement allié intégrant le franchissement à la nage d'un étang de 50 mètres où la baignade était strictement interdite. 2,70 m de profondeur, une eau à 9 degrés. Une fiche de sécurité prévoyait des zodiacs, des gilets de sauvetage et des encadrants qualifiés. Les élèves superviseurs se sont contentés d'une simple corde et de deux bouées. Aucune conscience d'un risque de noyade cette nuit-là, reconnaissent-ils, malgré les légèreté du dispositif. À 23h30, Jalal entre dans l'eau porté par la musique de la Valkyrie de Wagner. Très vite, c'est l'engorgement dans les temps. Maître Camille Radeau, avocat de la famille Ami.
Ils sont jetés en tout, ils étaient entre 60 et 80. À s'agripper, à s'entraîner par le fond, il y a une grosse panique. C'est le chaos. Jalal s'est noyé. Il était épuisé par ces semaines de bahutage au cours desquelles on dort 2 heures par nuit, c'est des exercices physiques qui sont lourds, etc. Là, on se retrouve à nager de nuit dans l'eau à 9 degrés, l'équipement qui pèse extrêmement lourd. On n'a pas pied, on se noie. Il y aurait pu y avoir d'autres morts et d'autres blessés.
Voilà, les 7 prévenus, dont un général, encourent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
François Coulon qui suit ce procès à Rennes pour Europe 1.
La suite également, Isabelle, du procès de l'attaque du Thalys.
Oui, procès de l'attentat déjoué, c'était en août 2015, avec l'audition aujourd'hui des passagers qui ont raconté la panique au moment de l'attaque, notamment l'acteur Jean-Hugues Anglade qui se trouvait à bord avec sa famille, Gladys Laffitte.
Oui, ce jour-là, Jean-Hugues Anglade est avec sa compagne, ses deux fils de 13 et 14 ans, dans la voiture voisine de celle où se trouve le terroriste, quand il voit un contrôleur et deux hôtesses de restauration courir, hurler en anglais, il tire sur les gens. Trois employés qui se précipitent derrière une porte de service fermée à clé de l'intérieur. Jean-Hugues Anglade veut s'y réfugier aussi et surtout mettre à l'abri ses enfants, mais la porte reste fermée. On a cogné, essayé d'expliquer qu'on n'était pas des terroristes, mais personne n'a voulu ouvrir, on est resté là totalement impuissant, seul, abandonné, acculé dans une souricière. Une scène qui l'a beaucoup choqué. S'imaginer mourir sous les balles d'une Kalachnikov, c'est assez peu commun. Je préfère mourir sur scène personnellement, a conclu l'acteur en souriant. Alors de l'autre côté de cette fameuse porte, il y avait un contrôleur donc qui s'est expliqué devant la cour d'assises spéciale la semaine dernière. On pensait que c'était un carnage. J'étais comme un animal qui cherche à fuir son prédateur. Un homme qui a tout de même protégé 5 personnes, qui l'a fait descendre du Thalys en urgence, en pleine campagne, dès que cela a été possible.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1 qui suit pour nous ce procès.
La détention de Carlos Ghosn au Japon, jugée arbitraire par des experts de l'ONU.
Et oui, il demande que l'ancien patron de Renault et Nissan soit indemnisé. Réaction ce soir du Japon, cet avis est totalement inacceptable et n'est pas juridiquement contraignant.
L'actualité à l'étranger, 19h08, on part aux États-Unis d'ailleurs. D'abord, où Joe Biden nomme son équipe, ça y est.
Oui, notamment à l'un des postes les plus importants, à la tête de la diplomatie américaine. Il a choisi Anthony Blinken, l'un de ses principaux conseillers en matière de politique étrangère. Il avait été le numéro 2 du département d'État sous le Barack Obama. John Kerry, qui était justement l'ancien chef de la diplomatie, sera le représentant spécial pour le climat. Et puis pour la première fois, un hispanique, Alejandro Mayorkas, est nommé à la sécurité intérieure.
On en vient à cet épilogue. Épilogue d'une des plus grandes histoires d'espionnage qui a terni les relations entre les États-Unis et Israël.
Et oui, c'est l'histoire de Jonathan Pollard, juif américain qui vient de passer 30 ans en prison aux États-Unis et qui est maintenant libre d'émigrer en Israël. On en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Jonathan Pollard, qui a d'ailleurs inspiré le réalisateur Éric Rochant pour son film Les Patriotes, qui est un héros pour les uns, un traître pour les autres.
Alors c'est un traître, ça ne fait strictement aucun doute, puisque Jonathan Pollard était un agent des services de renseignement américains. Or, il a fourni à Israël des milliers de documents ultra confidentiels contre des dizaines de milliers de dollars, ce qui caractérise un acte de trahison, même si Israël est un allié des États-Unis. Jonathan Pollard, en plus, connaissait parfaitement les procédures très strictes qui sont prévues pour les échanges de renseignements entre pays alliés. Il a sciemment décidé de les contourner pour livrer pendant plus de 2 ans des valises entières d'informations secrètes. C'était entre 1983 et 1985. Et d'ailleurs, ce n'était pas seulement des renseignements sur les États arabes ou les pays hostiles à Israël, puisque les enquêteurs du FBI estiment qu'il aurait vendu tous les codes de chiffrement des écoutes de la NSA, vous savez, les grandes oreilles américaines, et que Tel Aviv les aurait ensuite cédées à Moscou en échange d'une autorisation à immigrer pour 1 million de juifs soviétiques bloqués en URSS. Alors vous imaginez, en pleine guerre froide, l'histoire est absolument énorme et on peut comprendre qu'elle ait créé quelques tensions entre les services américains et israéliens qui pourtant collaborent de manière extrêmement proche. Et c'est la raison pour laquelle Jonathan Pollard a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité et que tous les présidents américains ont toujours refusé de céder aux demandes qu'il aurait été formulées par tous les premiers ministres israéliens d'accorder une grâce à Jonathan Pollard.
Sauf qu'il a retrouvé la liberté.
Oui, après donc 30 années passées en prison, une commission de probation a fini par lui accorder une liberté sur parole, c'était en 2015, avec toutefois une obligation de porter un bracelet électronique et puis une assignation à résidence aux États-Unis pour une période de 5 ans qui a touché à sa fin ce week-end. Jonathan Pollard est donc désormais libre et il devrait aller vivre en Israël, dont il a obtenu la nationalité en 1995 durant sa détention. C'est le seul pays où, effectivement, là, il ne sera plus considéré comme un traître.
Merci, Didier. L'œil de Didier François. Histoire absolument fascinante. 30 ans en prison pour espionnage. Tous les soirs, Didier, on vous retrouve dans le journal de 19h.
Allez, le foot, on va faire monter un peu la pression parce que vous savez que Paris joue demain au Parc des Princes face aux Allemands de Leipzig. Match de phase de poule de la Ligue des Champions. Bonsoir Cyril de la Morinerie.
Bonsoir.
Match capital pour le PSG, victoire quasi impérative.
Oui, car les Parisiens sont troisième de leur groupe après avoir perdu 2 matchs contre Manchester United d'abord, mais aussi en Allemagne sur le terrain de Leipzig. Le finaliste de la dernière Ligue des Champions, battu également le week-end dernier à Monaco en Ligue 1, doit se reprendre. Alors la bonne nouvelle, c'est que Mbappé et Neymar sont de retour, un duo qui a marqué tout de même 171 buts avec le Paris Saint-Germain. Le champion du monde est revenu en forme de l'équipe de France, il a réussi un doublé en principauté, sa blessure à la cuisse n'est plus qu'un mauvais souvenir. Quant à Neymar, touché aux adducteurs et qui avait fait un aller-retour express au Brésil pour faire constater sa blessure, eh bien le numéro 10 du PSG a disputé la dernière demi-heure à Monaco et il sera titulaire demain, a confirmé l'entraîneur parisien Thomas Tuchel à Julien Froment.
On a besoin et c'est absolument nécessaire qu'il joue, qu'il soit sur le terrain parce qu'il a la capacité, il a la confiance et la qualité et l'expérience. Il est joueur clé pour nous et il peut gérer des matchs comme ça physiquement.
En revanche, l'attaquant Mauro Icardi est forfait, tout comme Draxler, Gueye, Kerrer et Bernat. Quant à Verratti et Herrera, ils sont incertains. Enfin, en l'absence de Kimpembe suspendu, le capitaine Marquinhos, utilisé au milieu de terrain, va retrouver son poste naturel de défenseur central. Et signe que le match est de la plus haute importance, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo étaient présents cet après-midi à l'entraînement du PSG.
Merci Cyril de la Morinerie. Rendez-vous donc demain soir 21h, c'est-à-dire après l'édition spéciale consacrée à l'intervention d'Emmanuel Macron.
C'est soir et pop-corn.
Voilà, c'est on ça. Écoute le président et le foot. Et un peu plus tôt, il y aura aussi une autre rencontre, toujours en Ligue des Champions, Rennes qui accueillera Chelsea à 18h55.
Voilà, soir et pop-corn avec votre serviteur Isabelle Millet, toujours au poste. Merci Isabelle, à demain donc 18h.